est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Périclès avait de l'influence, en raison de la considération qui l'entourait et de la profondeur de son intelligence. Chaque fois que les Athéniens s'abandonnaient à l'audace et à l'orgueil, il les frappait de crainte. S'ils s'effrayaient sans motif, il les ramenait à la confiance. Ce gouvernement portait le nom de démocratie. En réalité, c'était le gouvernement d'un seul homme.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Sous l'effet à la fois de la crise des Gilets jaunes et de l'évolution préoccupante de plusieurs pays membres de l'Union européenne à l'Est, on voit surgir ces temps-ci, dans les journaux et sur les tables des libraires, de nombreux écrits qui s'interrogent à nouveau frais sur la démocratie, sur ses origines, sur ses ressorts, sur ses ambiguïtés et sur ses fragilités. Avec le risque, comme toujours, d'embellir le passé en oubliant les tensions qui n'ont pas cessé de traverser les nations ou les cités qui ont adopté ce régime au long des âges. Parce que le mieux est souvent d'en revenir aux origines, nous allons remonter ce matin jusqu'à la Grèce antique, jusqu'à l'Athènes de Périclès. Nos manuels scolaires, en parlant du siècle de Périclès, pour définir le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'ont figé en stratège et en homme d'État dans la position respectée et quelque peu abstraite d'un père de la démocratie. Mais à peine s'approche-t-on de lui, comme nous allons le faire ce matin avec Vincent Azoulay, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, son biographe, à peine s'approche-t-on de lui qu'on constate la complexité de cette histoire. Périclès, dès son temps, est apparu pour certains comme l'incarnation de la démocratie, organisant généreusement et efficacement le pouvoir du peuple, et pour d'autres, comme celui qui en a dépossédé, en réalité, selon diverses dérives, distance élitaire, démagogie d'une éloquence, concentration de l'autorité au profit d'un seul, violence colonialiste au dehors, tels seraient les éléments principaux d'un portrait à charge qui a connu une grande prospérité après la mort de notre personnage. Le plus négatif l'a longtemps emporté, jusqu'au milieu du 19e siècle au moins, et comme il advient toujours, les variations dans le destin posthume de Périclès ont beaucoup à nous dire sur les avatars du principe même de la démocratie et sur ses nombreuses malaventures.
Notre régime politique ne se propose pas pour modèle les lois d'autrui, et nous sommes nous-mêmes des exemples plutôt que des imitateurs. Pour le nom, comme les choses dépendent non pas du petit nombre mais de la majorité, c'est une démocratie. S'agit-il de ce qui revient à chacun? La loi, elle, fait à tous, pour leurs différents privés, la part égale, tandis que pour les titres, si l'on se distingue en quelques domaines, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais le mérite qui vous fait accéder aux honneurs. Inversement, la pauvreté n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa situation. Nous pratiquons la liberté non seulement dans notre conduite d'ordre politique, mais pour tout ce qui est suspicion réciproque dans la vie quotidienne. Nous n'avons pas de colère envers notre prochain s'il agit à sa fantaisie, et nous ne recourons pas à des vexations qui, même sans causer de dommages, se présentent au dehors comme blessantes. Malgré cette tolérance, qui régit nos rapports privés dans le domaine public, la crainte nous retient avant tout de rien faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois, surtout à celles qui fournissent un appui aux victimes de l'injustice ou qui, sans être loi écrite, comporte pour sanction une honte indiscutée.
Vincent Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer un extrait de la célébrissime oraison funèbre prononcée par Périclès, qui est rapportée par Thucydide, peut-être un peu aménagée ou inventée en partie par Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse. C'est un extrait de l'émission de Pascal Lismonde, Une vie, une œuvre, sur France Culture, le 27 novembre 1997. C'est un bon point de départ, non ?
Excellent. Nous sommes en 431, avant Jésus-Christ, on va compter à l'envers, et Périclès monte, alors non pas à la tribune de l'Assemblée, mais devant les cercueils des citoyens qui sont morts lors de la première année de combat de cette fameuse guerre du Péloponnèse qui s'étendit sur 25 ans entre 431 et 404 avant Jésus-Christ.
Plutôt les Invalides que le Palais Bourbon.
Exactement. Et cela,
que bien le Pré-Saint-Gervais de Jean Jaurès.
Tout à fait. Et cela, bien sûr, implique une certaine solennité, puisque on parle devant les familles et devant les corps, les ossements, puisque ces corps ont été brûlés, des soldats qui sont morts pour la cité. Et on désigne, en général, un orateur particulièrement influent pour cet honneur qui consiste à parler des morts. Et ce que fait Périclès ici, d'après Thucydide, qui relaye sa parole, Périclès n'ayant pas laissé d'écrit, lui.
À peine quelques décrets.
Oui, et encore très peu. Et que fait Périclès ? Il fait l'éloge de la cité à travers celui des morts. Et donc, cet éloge, c'est l'éloge d'une cité en guerre. Et en guerre contre Sparte. La grande rivale dans ce cinquième siècle des cités grecques.
Une démocratie en guerre.
Une démocratie en guerre. Et quand on regarde attentivement ce discours, on s'aperçoit qu'en réalité, la question, par exemple, des vexations réciproques, c'est une allusion au comportement des lacédémoniens, des spartiates, vis-à-vis de leur propre population, que cela soit les citoyens ou les non-citoyens, et la façon dont ils se méfient des étrangers. Donc il y a tout un sous-texte qui est celui d'une démocratie en guerre, exaltant ses morts, son régime, face à l'ennemi. Il s'agit de remobiliser les troupes, ici.
Il est question aussi de solidarité, presque de sécurité sociale.
Alors, sécurité sociale, peut-être pas encore, même si la concordance des temps nous y invite, mais en tout cas, un éloge d'une cité qui sait se montrer tolérante, contrairement aux Spartiates, et qui donne à tous la possibilité de s'impliquer dans le régime politique démocratique qui a à cette époque environ, on va dire, 80 ans, qui est encore une toute jeune démocratie, puisque c'est à la toute fin du VIe siècle que Athènes, peu à peu, s'est transformée en un régime où le peuple progressivement, devient l'acteur majeur des décisions prises à l'Assemblée par tous les citoyens réunis sur la Pnyx.
Situez-nous, si vous le voulez bien, Vincent Azoulay, situez-nous le parcours, l'itinéraire, le destin de ce Périclès.
Ce qui est intéressant avec Périclès, c'est que d'une certaine façon, il nous permet de suivre l'évolution de la démocratie athénienne, puisqu'il naît en 494 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire juste avant les guerres médiques, donc les guerres médiques qui opposent une partie des Grecs, pas tous, seulement une trentaine de cités pour la seconde guerre médique et seulement les Athéniens pour la première, aux Perses, cet immense empire dont le centre de gravité se trouve dans l'Iran actuel. Deux guerres en 490 puis en 480-479 qui vont déboucher sur la victoire surprise des cités grecques qui avaient décidé de résister.
Marathon, Salamine.
Et pourquoi c'est important dans notre histoire, alors que Périclès est encore enfant, c'est parce que cela va être notamment la victoire d'Athènes et de Sparte, les futurs protagonistes du conflit de la guerre du Péloponnèse, mais qui ici sont, en tout cas pour la seconde guerre médique, unis contre l'envahisseur perse. Et ces guerres médiques sont aussi importantes pour Athènes dans la mesure où, pour la seconde, ce sont les trières, notamment, donc les navires de guerre athéniens, qui vont jouer un rôle décisif dans la défaite des Perses qui avaient envahi la Grèce. C'est à cette occasion, d'ailleurs, que Athènes, la ville d'Athènes, est prise et incendiée. Hein. Car peut-être faut-il le rappeler aux auditeurs, mais s'il y a eu Parthénon, et ce magnifique monument visité par des millions de touristes chaque année, c'est parce que les Perses ont eu, non pas la bonne idée, mais ont dévasté Athènes en 480, alors que la majorité des Athéniens avaient évacué la cité, se trouvaient pour les hommes sur l'étrière et allaient remporter une victoire décisive à Salamine.
Nous parlerons tout à l'heure des grands travaux, mais restons tout à fait. Sur la vie de Périclès, restons qui en fait est actif dans cet intervalle entre les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse.
Exactement.
60 ans.
Entre 480 et la mort de Périclès, c'est le début de la guerre du Péloponnèse, 429, alors que donc les guerres médiques ont donné un coup de fouet à la démocratisation de la cité, dans la mesure où, donc, sur l'étrière, c'était des gens qui n'avaient que leurs bras pour ramer, qui n'avaient pas suffisamment de richesses pour se payer une panoplie, c'est-à-dire l'équipement de l'hoplite, qui coûte cher, hein, et que chacun devait payer lui-même. Donc, des gens qui étaient pauvres et qui avaient donc joué un rôle crucial dans la victoire, ce qui, d'une certaine façon, les rendait légitimes à avoir une place politique à la hauteur du rôle militaire qu'ils avaient joué.
Alors Périclès, sur ce fond de tableau, dans ce paysage.
Dans ce paysage, Périclès, lui, est un tout petit peu décalé, puisqu'il est encore tout jeune au moment des guerres médiques, même si son père, Xanthippe, y a joué un rôle important. Puisque après avoir été ostracisé, c'est-à-dire exilé par le peuple, parce que jugé... peut-être dangereux et peut-être aspirant à la tyrannie, ce qui est le régime Oni dans le cadre de cette démocratie en construction, eh bien, Xanthippe a été rappelé et a joué un rôle lors de la Seconde Guerre médique. Et donc Périclès a vécu dans cette ambiance et ensuite, il y a commencé sa carrière alors que, peu à peu, Athènes développait assez rapidement une forme d'impérialisme sur les cités grecques qui avaient été rassemblées sous son hégémonie, sous sa direction, à la fin des guerres médiques. Et donc, juste après la fin des guerres médiques, donc Athènes va prendre la tête d'une ligue, la Ligue de Délos, qui va avoir pour vocation d'empêcher le retour des Perses en mer Égée. Et dans le cadre de cette ligue, les Athéniens vont peu à peu, de plus en plus, se servir des alliés pour d'autres choses que le combat contre les Perses, sachant que au moment où Périclès commence à avoir une réelle importance dans la cité, c'est-à-dire dans les années 450-440 avant Jésus-Christ, le danger perse a disparu. Et même mieux encore, en 449, une paix est signée entre les Athéniens et les Perses. Ce qui fait que la Ligue de Délos n'a plus véritablement d'objet, mais elle va continuer à perdurer et Athènes va s'en servir pour nourrir la démocratie.
Alors comment émerge-t-il Périclès comme ce grand dirigeant, ce leader essentiel ?
Alors, il émerge d'abord au théâtre. Sa première émergence publique, c'est en tant que corrège d'une pièce d'Eschyle qui nous est parvenue, qui s'appelle Les Perses, et qui raconte la défaite des Perses à Salamine, vue du côté perse.
Corrège, ça veut dire ?
Corrège, ça veut dire celui qui finance la pièce. Les Athéniens avaient ce système génial qui consistait à faire payer les plus riches des citoyens toute une série de services publics, ce qu'on appelle des liturgies. Et parmi ces liturgies, il y avait l'équipement des trières, certainement la plus lourde, mais aussi donc ce qu'on appelle la chorégie, qui consistait à entretenir, préparer un chœur, alors chœur de théâtre, chœur de dithyrambes, de chants et de danse, qui se déroulait sur le flanc sud de l'Acropole, dans le théâtre de Dionysos.
Et qu'on offre au peuple, en somme.
Spectacle qu'on offre au peuple et qu'on offre aux dieux, puisque c'est un spectacle rituel, on ne fait pas de l'art pour l'art, mais toujours en l'honneur des dieux. Et donc, il a été corrège d'Eschyle, et en 472, donc il a à peine une vingtaine d'années, il ne peut pas encore véritablement, alors certainement pas être magistrat, il faut au moins avoir 30 ans, il ne peut pas encore même parler à l'Assemblée et être écouté. Et donc c'est une façon pour lui de faire ses premiers pas dans la cité par le biais de cette fonction de corrège qui lui attire un grand prestige puisqu'il remporte la victoire. grâce aux pièces composées par Eschyle et jouées dans le théâtre.
C'est aussi un concours.
C'est aussi un concours. À la fois les corrèges et les poètes et les acteurs sont en compétition. Et à la fin, il y a la remise de prix souvent qu'on offre aux dieux et qu'on met en scène pour sa plus grande gloire.
Alors avant que vous nous disiez, Vincent Azoulay, comment la suite de son prestige s'est construit, je voudrais vous faire écouter un extrait de Plutarque. Nous aurons évoqué le rôle que Plutarque a pu avoir dans ses vies parallèles, où il consacre une vie à notre Périclès, le rôle qu'il a pu avoir sur son destin posthume. Mais dès à présent, écoutez donc ce portrait qui, en effet, la lecture, je vais peut-être vous surprendre, est de Marcel Jouhandeau. Et il s'agit, pour commencer, de l'influence d'Anaxagore de Clazomène, un intellectuel très réputé à l'époque, sur Périclès. Écoutez-le.
Pénétré de l'estime la plus profonde pour ce grand personnage, instruit à son école dans la connaissance des sciences naturelles et des phénomènes célestes, Périclès puisa dans son commerce non seulement une élévation d'esprit, une éloquence sublime, éloignée de l'affectation et de la bassesse du style populaire, mais encore un extérieur grave et sévère que le rire ne tempérait jamais. Une démarche ferme et tranquille, un son de voix toujours égal, une modestie dans son port, dans son geste et dans son habillement, que l'action la plus véhémente lorsqu'il parlait au public ne pouvait jamais altérer. Ses qualités, relevées par beaucoup d'autres, frappaient tout le monde d'admiration. On raconte qu'étant insulté par un homme bas et insolent qui ne cessa durant toute une journée de lui dire des injures, il les supporta patiemment sans lui répondre un seul mot et se tint constamment dans la place à expédier les affaires pressées. Le soir, il se retira tranquillement chez lui, toujours suivi par cet homme qui l'accablait. Quand il fut à la porte de sa maison, comme il faisait déjà nuit, il commanda à un de ses esclaves de prendre un flambeau et de reconduire cet homme chez lui. Quand Zénon entendait quelqu'un traiter de faste et d'arrogance la gravité de Périclès, il l'exhortait à avoir lui-même un pareil orgueil. Et il l'assurait que cette imitation produirait en lui l'émulation et l'habitude des bonnes choses.
C'était un extrait de l'émission Le Livre de Chevet sur France Culture, le 4 octobre 1966, donc Marcel Jouhandeau. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas lu ce passage de Plutarque, sinon il aurait peut-être évité de dire, d'avoir ce cri que nous connaissons bien, « Casse-toi, pauvre con ».
Contrairement à ce qui se passait à l'époque moderne, les élites politiques en France ne lisent plus Plutarque. Et ça, quoique, on parlera peut-être de Jupiter et de Zeus un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que voilà, on voit Périclès d'une certaine façon vivre au quotidien sa vie d'homme politique, c'est-à-dire de stratège, hein, puisque finalement la base de son pouvoir, c'est le fait de commander les armées athéniennes dans le cadre de cette démocratie impérialiste que j'ai évoqué brièvement. Et cet homme, tout stratège qu'il est, donc revêtu d'une grande dignité, est mis en scène comme étant capable de supporter les injures et les avanies sans réagir. Alors, il faut comprendre que en cela, Périclès est tout à fait extraordinaire et exceptionnel, même par rapport aux Athéniens de son temps, hein, et que c'est quelque chose qui a frappé de stupeur à la fois ses contemporains, mais ensuite la postérité.
Son maintien, son sang-froid,
qui n'était pas toujours pris en bonne part. Parce que ne pas réagir comme le ferait un homme du peuple, c'était en même temps montrer une certaine distance et une distance qui pouvait être prise pour une solennité indue. Et donc le fait de ne pas réagir pose aussi problème et peut devenir la cause d'une accusation contre Périclès. Et c'est ce que dit Plutarque à la fin, quand on lui reproche son arrogance. L'arrogance de ne pas répondre, de ne pas faire comme tout un chacun ferait. Et pire encore, s'il était stratège à ce moment-là, comme les lois l'exigeraient, puisque quelqu'un qui injurie un stratège, c'est l'une des rares limites de la liberté d'expression à Athènes, eh bien, est passible de poursuites judiciaires.
Donc ça peut éclairer le rapprochement que je risquais il y a un instant.
Tout à fait. On peut dire que
c'est le contraire.
Que Sarkozy fait le contraire, c'est pas forcément. C'est un choix qui peut aussi se discuter et se justifier.
Alors, la suite de la carrière de Périclès, il est stratège parmi d'autres stratèges. Ce n'est pas un président de la République d'aujourd'hui ou même un premier ministre. C'est une charge qui est renouvelée et qui est toujours mise en péril.
C'est crucial ici parce que c'est effectivement le fondement de tous les malentendus nés de l'expression de siècle de Périclès, notamment. Périclès n'était qu'un stratège parmi 10 autres élus chaque année par l'Assemblée. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire chez Périclès, mais il n'est pas le seul à cette époque, c'est ses réélections successives, puisque contrairement à la plupart des magistratures, la charge de stratège est non seulement élective, donc on peut, ce n'est pas un tirage au sort, on peut choisir qui l'on souhaite voir commander les armées, mais elle est reconductible. Et on sait que Périclès a été stratège plus d'une quinzaine de fois, ce qui montre une adhésion populaire sur le temps long et qui lui a permis de développer une certaine politique, mais une politique toujours sous le contrôle du peuple et sous le contrôle des autres stratèges qui, d'ailleurs, étaient parfois de bien meilleur militaire que lui, parce qu'il a remporté des victoires, mais ce n'est certainement pas le meilleur guerrier que la Grèce ait jamais connu.
Mais c'est le meilleur orateur, semble-t-il. Il faut s'arrêter un instant sur cette rhétorique, sur cette capacité de saisir les foules de diverses façons.
C'est certain, et c'est finalement aussi ce que nous dit le début du passage de Plutarque, avec la formation rhétorique que Périclès a reçue. Alors, par Anaxagore, dit Plutarque, c'est en réalité assez douteux, par quelqu'un qui s'appelle Damon, qui était athénien, qui était musicien, hein, parce que musique et politique, ici, en réalité, étaient tout à fait liés en Grèce. Et Platon le dit bien, hein, la musique a une influence sur la façon dont les régimes politiques se développent.
Et peut-être dont on pose sa voix, dont on organise le...
Et il a un rôle crucial, ce Damon, dans la formation d'un rhéteur exceptionnel. Ce qui permet à Périclès de tenir des foules. Et il faut imaginer, donc, il n'y a pas de micro. Hein, un homme sur la Pnyx, c'est-à-dire l'assemblée athénienne, par grand vent, hein, il n'y a pas de toit, pouvoir haranguer 6000 Athéniens. C'est souvent le nombre que l'on retient pour les assemblées de cette époque-là. Il n'y avait pas vraiment la place d'accueillir plus de monde.
C'est encore ce qui se passait sous la Troisième République. Il y a la fameuse photographie de Jean Jaurès au Pré Saint-Gervais en 1913 qui parle de la même façon et on se dit qu'il ne doit être entendu que par les centaines d'assistants qui sont autour et que probablement quelque chose se répercute ensuite. Comment est-ce que ça se passait? Il n'y avait pas de porte-voix à Athènes.
Il n'y a pas de porte-voix et en plus, il ne faut pas imaginer le peuple discipliné et écoutant religieusement la parole des orateurs. Les orateurs se succèdent à la tribune, c'est une sorte de lutte entre orateurs pour proposer la meilleure décision qui sera ensuite votée par le peuple à main levée. Et dès que l'orateur prononce quelque chose qui ne plaît pas au peuple, c'est le torubos, c'est-à-dire le bazar, le chahut. Et donc les sifflets, les applaudissements, et c'est une façon d'ailleurs de contrôler la parole des orateurs et de faire que d'une certaine façon de guider leur voix. Donc il faut des capacités rhétoriques exceptionnelles, une capacité aussi à sentir les réactions du peuple pour s'y adapter ou au contraire pour les contrecarrer. On verra peut-être que Périclès était passé maître dans cet art de tenir la foule malgré ses mouvements d'humeur.
Il y a aussi les rumeurs qui courent à travers cette foule, les bruits, les fausses informations.
C'est effectivement avec ces rumeurs que l'orateur doit composer, des rumeurs qui ont un rôle également structurant dans l'opinion publique athénienne et que les Athéniens tiennent pour vrai. La rumeur a un autel, on la vénère, elle a un culte. La rumeur aux mille bouches, c'est une divinité.
Et la déesse aux mille bouches. On n'en est pas là encore avec les fake news, heureusement.
Non, mais pourtant, il y en avait beaucoup, mais les hommes politiques devaient composer avec cette dimension de la rumeur et adapter leur comportement en conséquence. Alors, cette rhétorique, la rhétorique de Périclès, elle était considérée comme exceptionnelle dès l'Antiquité, et c'est notamment les comiques qui s'en sont moqués, parce que effectivement, hein, il tenait le peuple bien en main, dit Thucydide, lors des harangues à l'Assemblée, mais les comiques, donc au théâtre de Dionysos, ne manquaient pas de se moquer de cette extraordinaire éloquence, souvent en rabattant celle-ci sur un phénomène inquiétant, comparée parfois à la piqûre, au dard d'un animal que Périclès laisserait dans l'oreille de l'auditeur pour l'engourdir, et tantôt le comparant à un dieu, Zeus, fulminant ses décrets devant l'Assemblée et, en quelque sorte, tissant d'infrangibles liens de parole dans lesquels les auditeurs auraient été enserrés.
Là, on est dans le domaine de la dérision qui est presque toujours présente dans la démocratie. Aujourd'hui, ça a été longtemps les chansonniers, ça l'est encore, et puis ce sont les émissions d'ironie ou de dérision à la télévision.
Exactement. Le
Aristophane.
Aristophane, Kratinos et quelques autres, Eupolis, tout cela ce sont des comiques qui représentaient leurs pièces dans le théâtre avec, il faut l'imaginer, Périclès qui y assistait et les abreuvant d'injures, les critiquant extrêmement vertement. Hein, et cela fait partie du contrôle que le peuple, par l'intermédiaire de ses poètes, exerce sur ceux qui osent prendre la parole à l'Assemblée, parce qu'il fallait un certain courage pour affronter le peuple athénien.
Alors voici, à propos d'éloquence, voici un autre extrait d'un autre discours de Périclès. C'est le dernier tel qu'il est reproduit, peut-être un peu imaginé en partie, vous nous le direz, par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. C'est un extrait de l'émission « Ça ne peut pas faire de mal » de Guillaume Gallienne sur France Inter, le 21 avril 2012. Périclès va nous parler de la démocratie et la guerre, la démocratie et la colonisation. Presque Munich, vous allez voir.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Atterré par vos malheurs privés, vous ne pensez plus au salut de la collectivité et c'est à celui qui vous a conseillé de faire la guerre que vous vous en prenez. Et pourtant, vous attaquez en ma personne un homme qui, je crois, ne le cède à nul autre quand il s'agit de discerner la politique à suivre et de vous l'expliquer. Un homme aussi qui aime son pays et qui est inaccessible à la tentation de l'argent. S'il est vrai que, au moment où vous avez suivi mes conseils et décidé de faire la guerre, vous reconnaissiez en moi ces qualités, vous êtes bien malvenu maintenant à me considérer comme un coupable. Sans doute, quand on a le choix et qu'on se trouve par ailleurs dans une situation prospère, est-ce une grande sottise de faire la guerre. Mais quand on ne peut échapper à cette alternative, soit de céder pour subir aussitôt le joug de l'étranger, soit d'affronter les périls avec l'espoir de triompher, alors il est plus honorable de braver le danger que de s'y dérober. Je reste quant à moi le même, je ne change pas. C'est vous qui êtes inconstant. Il faut pourtant que, citoyens d'un État puissant, vous consentiez à affronter les plus rudes épreuves et ne permettiez pas que s'effondre votre prestige. Endurcissez-vous donc contre vos souffrances particulières et ne vous préoccupez plus que du salut commun. Ce qui est en jeu dans ce combat, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas seulement la question de savoir si nous resterons libres ou si nous deviendrons des esclaves. Il s'agit encore de ne pas perdre notre empire et d'échapper à la menace que font peser sur nous les haines suscitées par notre domination. Et vous n'avez plus la possibilité de vous démettre. Il se peut que les gens dépourvus d'ambition ne nous approuvent pas. Mais ceux qui voudront, à leur tour, être des hommes d'action, nous prendrons pour modèle. À vous donc de choisir une ligne de conduite qui vous permettra de sauver l'honneur aujourd'hui et de laisser à la postérité un glorieux souvenir.
La capacité d'une démocratie à faire la guerre, interrogation de toujours, non, Vincent Azoulay?
Oui, tout à fait. Et ce magnifique extrait fait pendant à l'oraison funèbre. On se situe en réalité à peine un an plus tard.
L'extrait que nous avons donné à entendre tout à l'heure.
Voilà, l'extrait de Périclès parlant du régime politique athénien et en faisant l'éloge. On se trouve là un an après, mais beaucoup de choses se sont passées. C'est la guerre du Péloponnèse qui, d'une certaine façon, a pris tout son sens tragique. La la peste. En réalité, le typhus rôde dans les murs de la cité. Cette peste, cette épidémie qui va emporter bientôt, moins d'un an plus tard, Périclès, en 429. Et les Athéniens sont mécontents. Les Athéniens sont mécontents de la situation, puisque les Spartiates sont à leur porte, ils ravagent leurs champs, tandis que les Athéniens sont, eux, claquemurés dans leurs murailles et qu'ils parviennent, en revanche, à survivre plutôt bien, s'il n'y avait pas l'épidémie, en faisant venir, depuis leur empire, les vivres nécessaires pour leur approvisionnement. Et donc, ce qu'on entend, c'est le peuple qui gronde et Périclès qui tente de les convaincre que sa politique est la bonne, c'est-à-dire de rester dans les murs pour ne pas affronter directement les Spartiates qui sont supérieurs sur Terre en profitant de leur empire maritime.
Donc, en somme, en laissant les espaces ruraux au pied des murs, ce qui est évidemment un choix très, très radical et peu approuvé par les paysans.
Exactement.
Qui doivent se réfugier dans la ville.
Les paysans qui s'entassent dans la ville, dans des conditions d'hygiène assez déplorables, ce qui d'ailleurs joue dans la diffusion de l'épidémie. Et donc, colère contre Périclès, un Périclès qui d'ailleurs bientôt va être démis de ses fonctions, frappé d'une lourde amende avant que le peuple ne le rappelle. Donc c'est cette première dimension que l'on entend. Et puis l'autre musique, c'est celle de l'impérialisme athénien, puisqu'on a là la plus belle, la plus tragique justification de l'impérialisme que les Athéniens exerçaient sur leurs alliés, c'est-à-dire des cités grecques, ces cités grecques qu'ils étaient censés protéger contre les Perses. Le danger perse s'étant évanoui,
a continué après le danger évanoui.
Exactement, qui continuait, et même bientôt le tribut allait être encore augmenté pour combattre Sparte, et des alliés écrasés que Périclès avait plusieurs fois mis au pas à l'occasion de révoltes à Égine, à Samos, puisque bien sûr ces cités grecques se révoltent, il n'y a plus d'objet à la Ligue de Délos, et pourtant Athènes continue à exiger d'eux de verser le tribut. Avec une brutalité extrême.
On les tue, ceux qui se révoltent, on leur tatoue des signes de réprobation sur le visage. Enfin, c'est horrible.
Oui, ça c'est la guerre contre Samos, on est 10 ans auparavant, 440 disons, 441-439, c'est la longue guerre contre Samos, donc une île de l'Égée, cité grecque, qui faisait partie de la Ligue, mais qui voulait s'en émanciper, le danger perse n'étant plus une réalité. Et Périclès, là, va jouer un rôle actif dans le matage de la rébellion et qui passe effectivement par des cruautés sur lesquelles les sources ne font pas l'impasse.
Il y a dans cette démocratie une défense et illustration des droits civiques, mais des droits de l'homme, non.
Certainement pas. C'est une communauté de citoyens. Effectivement, on ne se focalise que sur les droits des citoyens et certainement pas sur les droits d'une humanité abstraite. Et avec, dans ce discours, quelque chose qui, pour nous est difficile à comprendre, mais peut-être qu'on aurait mieux compris à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle. C'est-à-dire la façon dont Périclès justifie l'impérialisme en disant que l'acquisition, il est très lucide de ce point de vue-là, l'acquisition de l'Empire, de cet Empire athénien sur les alliés grecs, était peut-être injuste, mais maintenant qu'on ne peut pas se démettre. Une fois que le cheval s'est emballé, d'une certaine façon, on ne peut pas descendre de selle, et il faut donc continuer à opprimer les alliés, parce qu'autrement, que se passerait-il ? Eh bien, ils se révolteraient contre les Athéniens, les réduiraient en esclavage. Ce qui fait que la liberté démocratique n'est permise uniquement par la continuation de la mainmise et éventuellement extrêmement rude sur les alliés.
Avec un autre aspect qui est important en démocratie, jadis comme aujourd'hui, c'est la question de l'argent et la question des relations ostensibles que les dirigeants peuvent avoir avec lui, sous l'effet souvent de l'envie généralisée ou parfois de la légitime réprobation.
Alors ça, c'est peut-être la troisième ligne mélodique que l'on trouve dans le discours. Périclès, obligé de se justifier, effectivement, sur son comportement personnel, sur le maniement qu'il a des deniers publics, j'ai envie de dire, ou en tout cas des drachmes publics.
Et sa fortune personnelle, c'est très intéressant. Sa fortune personnelle, comment dépenser ou ne pas dépenser.
Bien sûr, et c'est un homme riche, qui possédait plusieurs propriétés en Attique, et qui a donné des gages au peuple pour montrer qu'il l'utilisait toujours pour son plus grand bénéfice. Avec notamment quelque chose d'assez fascinant pour les historiens, notamment de l'économie, c'est le fait qu'on est dans une économie, alors non pas de marché, mais une économie, on va dire, à marché, à destination du marché, et que Périclès, donc, vendait ses productions d'un coup sur l'agora. Alors, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, parce que vendre ses productions sur l'agora, c'est tout à fait normal, en tout cas dans le cadre d'une économie de plus en plus monétarisée, hein, la monnaie grecque ayant été, Athènes étant l'une des cités qui ont développé parmi les premières un monnayage important dès la fin du VIe siècle. Donc vendre ses productions sur le marché, c'est normal. Mais les vendre d'un coup, c'est d'une certaine façon une absurdité économique, puisque c'est ne pas profiter des moments où les prix montent pour éventuellement faire un bénéfice maximal.
Il choisit vraiment la politique contre l'économie.
Exactement.
Et puis il y a son entourage, les précautions prises contre ceux qui pourraient dire qu'il favorise sa famille, par exemple, son fils Xantippe, parce que son père s'appelait Xantippe et son fils aussi.
C'est les règles de dévolution des noms, comme il y avait souvent des Pierre, des Jean-Pierre, puis des Pierre en France. Là, les noms se transmettent notamment avec une génération de décalage. Et donc Xantippe, qui est à la fois son père, mais là je parle du fils, est très mécontent de la façon dont Périclès, justement, gère sa maisonnée et refuse de s'endetter, choisit donc de vendre ses productions sans chercher à en obtenir des gains importants, et lui distribue d'ailleurs des subsides de façon très chiche, ce qui le rend furieux. Et on a toute une tradition, recueillie notamment par Plutarque, qui fait de Xantippe, donc son fils, le principal agent de la critique de son père, diffusant des rumeurs sur celui-ci, notamment en raison de cette façon de gérer sa fortune, mais qu'il faut comprendre à l'aune de la pression populaire, qui, d'une certaine façon, contraint un dirigeant qui veut avoir de l'influence en démocratie à manier, à, d'une certaine façon, s'excuser d'être riche, j'ai envie de dire.
Et puis, il est l'ami de tous et de personne.
Dans sa carrière, ce qui est très frappant, c'est la façon dont il met à distance, de façon assez ostensible, les relations avec sa propre famille, donc son fils, on vient d'en parler, mais même plus généralement, il décide de ne pas assister aux banquets de mariage, aux funérailles, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ça fait en principe, c'est ce que font tous les hommes en société. Et lui, il décide de ne pas le faire pour, justement, d'une certaine façon, donner des gages au peuple et montrer que, d'une certaine façon, il n'a que son intérêt, je parle de l'intérêt du peuple, en tête.
Et pour désarmer l'invidia, comme on dira à Rome.
Exactement.
C'est toujours l'envie qui est toujours une menace aussi pour la démocratie.
Le phtonos, diraient les Grecs. L'envie,
effectivement. Merci de traduire. Alors, nous allons voir que Plutarque, dans ses Vies des hommes illustres, rédigées, on ne s'en rend pas toujours compte, 6 siècles après, Plutarque, dans sa Vie des hommes illustres, évoque Périclès. C'est un extrait de l'émission Analyse spectrale de l'Occident de Serge Jouet. La lecture est de Paul-Émile Deybert, excellent sociétaire de la Comédie française. Dans ce texte, il est question des grands travaux et de la lutte contre le chômage. Toutes choses actuelles aussi, n'est-ce pas, Vincent Azoulay ?
Une trop grande injure faite à tout le demeurant de la Grèce et un tour de manifeste tyrannie, attendu qu'elle voit devant ses yeux que l'argent que l'on lui a fait contribuer à force pour les affaires de la guerre contre le barbare, nous l'employons à faire dorer, embellir et accoutrer notre ville, ni plus ni moins qu'une femme glorieuse qui veut être parée de riches joyaux et de pierres précieuses, et en faisant faire des images et bâtir des temples d'une excessive dépense. Périclès, au contraire, remontrait aux Athéniens qu'il n'était point tenu de rendre compte de ces deniers à leurs alliés, attendu qu'ils combattaient pour eux, et qu'ils tenaient les barbares loin de la Grèce, sans que contribuassent pour se faire un seul homme, un seul cheval, ni un seul vaisseau, mais seulement de l'argent, lequel n'est plus à ceux qui le payent, mais à ceux qui le reçoivent, moyennant qu'ils fassent ce pour quoi ils le reçoivent. Et qu'étant leur ville bien pourvue de toutes choses nécessaires pour la guerre, il était honnête d'employer le surplus de ses finances en choses qui, à l'avenir, quand elles seraient parachevées, leur apporteraient gloire sempiternelle. Et dès lors que l'on était encore après à les faire, les enrichirait d'une opulence présente pour la diversité des ouvrages de toutes sortes et des matières qui y feraient besoin, pour lesquelles amener et mettre en œuvre seraient employés ouvriers de tout métier et toute main qui voudraient travailler, de manière que tous les habitants de la ville viendraient à en recevoir paye et salaire du public. Et elle, par même moyen, s'embellirait et se nourrirait quand et quand de soi-même.
Les grands travaux, Vincent Azoulay, est-ce que ça évoque déjà un peu les ateliers nationaux de 1848, où on a fait faire des travaux pour occuper les ouvriers chômeurs?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que, très certainement, il y a là une politique redistributive. C'est-à-dire que la communauté décide souverainement de... effectivement, donner des salaires à toute une série de catégories de la population, d'ailleurs pas seulement des citoyens, hein, puisque sur ces chantiers travaillaient autant des métèques que des esclaves.
Les
étrangers domiciliés à Athènes. Et on a des comptes gravés sur pierre, alors non pas de la construction du Parthénon, mais de l'Érechtheion qui se trouve juste à côté, dont la construction commence peu après la mort de Périclès, qui nous donne des informations justement sur ce sur la participation de toute la communauté prise au sens large, donc non pas réduite seulement aux seuls citoyens. Et c'est donc une forme de redistribution qui se joue ici, et redistribution, le texte en parle, notamment pour partie, faut-il ajouter, du tribut des alliés, qui va servir pour partie à construire le Parthénon. Alors il y a là tout un débat chez les historiens pour savoir quelle est la fraction du tribut qui a servi à la construction du Parthénon.
Les cités elles-mêmes voyaient cela évidemment d'un mauvais œil.
D'autant que, d'une certaine façon, le Parthénon, qui n'est pas véritablement un temple, hein, il n'y a pas de culte qui est associé. Les cultes se déroulent justement à l'endroit où l'Érechtheion va être construit. Le Parthénon est, d'une certaine façon, le symbole pétrifié de l'impérialisme athénien. Puisque une fraction de l'argent du tribut a servi à le construire, et qu'ensuite, le trésor des alliés va être rapatrié au cœur du Parthénon, précisément dans la salle qui s'appelle la salle des Vierges et qui a donné son nom à ce bâtiment. J'ai pas envie de dire un temple, hein, parce que c'est finalement plus un bâtiment qu'un temple, puisque même s'il y a une statue, une gigantesque statue sculptée par Phidias, qui coûtait plus cher que le temple lui-même, en or et en ivoire, une statue chryséléphantine, eh bien, Phidias, il n'y a pas de culte associé.
Phidias, dont la légende dit qu'il a disputé la femme de Périclès, la fameuse Aspasie. Mais ne rentrons pas dans les alcôves, si vous voulez bien, et restons dans la cité. Vous évoquez les métèques. Il est important de rappeler, par rapport à nos démocraties contemporaines, que cette démocratie fonctionne largement sur l'oisiveté des citoyens et sur le labeur des esclaves et des métèques.
Alors oui, sur le c'est-à-dire que effectivement l'esclavage est tout à fait généralisé. Après, la très grande majorité des Athéniens travaillent, hein, et ce n'est qu'une infime fraction de la population civique qui peut se permettre d'avoir le luxe, comme Périclès, d'embaucher un intendant, un esclave, pour administrer ses propriétés.
Et donc ça fait donc une sorte de suffrage censitaire, c'est ça, parce que c'est les riches seuls ou les gens aisés qui peuvent participer au débat. Alors, débat politique. Il me semblait que avait inventé des mistoi, c'est-à-dire des sortes de
d'indemnités de participation, dirons-nous. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Les Athéniens se rendaient à l'assemblée, dans les tribunaux populaires, notamment parce que à partir d'un certain moment, la démocratie a décidé de défrayer les citoyens qui perdaient une journée de travail pour donner du temps à la communauté. Mais n'oublions pas que Périclès joua un rôle dans cette évolution, mais il initia seulement le mouvement, puisque à sa mort, probablement, seuls les tribunaux populaires étaient défrayés, hein, les participants au tribunal étaient défrayés, mais pas les participants à l'Assemblée. Ce qui, d'ailleurs, devait entraîner un certain absentéisme. Tout le monde peut assister à l'Assemblée, mais à ce moment-là, à l'époque de Périclès, personne n'est indemnisé pour le faire. Ce qui fait qu'on réfléchit à deux fois avant de s'y rendre. Il faut que les décisions soient importantes. Mais dès qu'il est question de guerre, de paix, de la définition du corps civique, les Athéniens s'y rendent en masse, malgré tout. Mais c'est vrai, rappelons aussi peut-être quelques chiffres, jamais plus de 6000 Athéniens, alors que le corps civique compte en 431, au moment du début de la guerre du Péloponnèse, probablement entre 50 et 60 000 citoyens, sur une population d'environ 300 000 habitants, si on rajoute les femmes, les jeunes, les esclaves, les métèques.
C'est là qu'on se heurte à une évidente différence avec les démocraties de notre temps. Je voudrais que nous concluions cette partie de notre conversation, Vincent Azoulay, en commentant ce mot de Thucydide très fameux à propos de Périclès. C'était de nom une démocratie,
Mais en fait, le premier citoyen exerçait le pouvoir. C'est juste ou c'est pas juste?
C'est faux. Disons-le clairement.
Je voulais vous donner l'occasion de hautement de contredire Thucydide. C'est assez chic.
C'est une vision partielle, plus exactement. Et c'est une phrase géniale qui a fait beaucoup de mal à la façon dont Périclès a été perçu dans la suite des temps. Puisque, effectivement, c'est à partir de cette phrase, et puis des vies, de la vie que lui a consacrée Plutarque, que l'on a fait de Périclès une sorte d'empereur romain avant la lettre, dominant un peuple, j'ai envie de dire une plèbe, qui suivait ses ordres comme les sujets le font avec un roi. Or, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, Thucydide nous donne des armes pour montrer, certes, l'influence de Périclès, qui était réelle sur le peuple athénien, mais aussi le fait qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi, loin de là, qu'il devait toujours ajuster son comportement, ses décisions, au désir de la fraction majoritaire du peuple.
Donc cette formule est une formule non seulement caricaturale, mais en somme controuvée.
Et surtout qui renvoie au biais oligarchique de Thucydide. C'est-à-dire que Thucydide n'est pas un ami, en tout cas de la démocratie radicale.
Et ça nous conduit vers la suite. Je voudrais que pour finir, nous évoquions la destinée posthume de Périclès, afin de comprendre pourquoi il a été finalement pris en mauvaise part pendant des siècles. On l'a oublié à cause du fait que depuis quelques décennies, on en a fait un personnage majeur. Le siècle de Périclès, je le disais tout à l'heure, il a fallu longtemps pour en arriver à cette parousie.
Ah oui, extrêmement longtemps. C'est ce qui est frappant quand on se lance dans une enquête sur la postérité de Périclès.
Comme vous le faites si bien dans votre biographie.
C'est à quel point cela a mis du temps à venir. Pas avant, disons, le milieu du XIXe siècle, avec quelques petits éclairs dans une nuit d'opprobre qui entoure le stratège athénien, quand on daigne en parler.
Machiavel et Montaigne en parlent très peu, mais ne l'aiment pas du tout, par exemple.
Oui, c'est-à-dire qu'en général, ils l'ignorent, et quand ils en parlent, c'est pour en faire un homme adepte de la science de gueule, dit Montaigne, ou un pipeur, quelqu'un qui fait prendre des vessies pour des lanternes, donc gardant les critiques que l'on trouve notamment chez Plutarque, adressées...
Pipeur, comme on dit que des dés sont pipés.
Exactement. Capable de faire croire ce qui n'a pas eu lieu. L'illusionnisme de la rhétorique athénienne.
C'est un peu l'oublié du grand siècle, Périclès.
Tout à fait. Alors, dans la grande querelle des anciens et des modernes qui se déploie au XVIIe siècle, où deux camps s'affrontent, ceux qui veulent continuer à penser la modernité avec l'Antiquité et ceux qui pensent que, notamment Louis XIV, peut s'émanciper de la référence antique, eh bien, c'est en général Alexandre qui est l'objet de tous les regards. Et Périclès, en général, n'est jamais évoqué. Mais aussi parce que dans cette Europe moderne, Périclès est associé avec le régime qu'il incarne, la démocratie. Et une démocratie, bien évidemment, honnie dans ces circonstances.
Mais même à l'épreuve des Lumières, il ne s'en sort pas tellement bien. Je vois que Jean-Jacques Rousseau en dit « Athènes n'était point une démocratie, mais une aristocratie très tyrannique, gouvernée par des savants et des orateurs. »
Tout à fait.
Périclès au premier chef.
Ce qui est fascinant, c'est que les philosophes, les philosophes du XVIIIe siècle sont pour la plupart violemment hostiles à Périclès. Alors tout simplement parce que l'antiquité qu'ils chérissent, c'est celle de Rome, et parfois plutôt de la République, et Sparte. En tout cas pour Rousseau, on est dans la querelle du luxe, et bien sûr c'est Sparte qui tient la corde, alors que Athènes, elle, est considérée comme la patrie, alors certes des arts, mais du luxe et du luxe émollient, de celui qui amollit et qui vous emmène vers la déchéance. Il n'y a finalement que Voltaire parmi les philosophes qui va essayer de...
Qu'un cas,
tout à fait, lever le flambeau de la démocratie, mais une démocratie qu'il déteste aussi. Il déteste le règne de la canaille, dit-il. Donc il sauve Périclès, mais il sauve Périclès contre la démocratie. Si Périclès est admirable, et on va trouver ça chez un certain nombre d'auteurs, et déjà chez Hobbes un peu plus tôt en Angleterre, si Périclès est admirable, c'est parce que, d'une certaine façon, il a anéanti la démocratie, il l'a rendue, et là, cela renvoie à la phrase de Thucydide, il l'a rendu en quelque sorte comme un mot creux, puisque derrière le pouvoir du peuple, c'est en réalité le pouvoir d'un seul.
Il est notable que la Révolution française prête beaucoup plus d'attention à Sparte et à Rome qu'à Athènes, et ne prend pas non plus la figure de Périclès comme en très bonne part, sauf une exception que je salue, celle de Camille Desmoulins, qui va nous proposer une sorte de concordance des temps, vous allez voir, à propos de l'Antiquité grecque. C'est un extrait d'un de ses articles dans le Vieux Cordelier, en janvier 1794, il n'a plus que quelques mois à vivre. C'est un extrait des Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff sur France Culture, le 11 juin 1990, une lecture de Jean-Pierre Leroux.
Sais-tu ce que c'est qu'un peuple républicain? Un peuple démocrate? Je n'en connais qu'un parmi les anciens. Ce n'est point les Romains. À Rome, le peuple ne parlait guère avec liberté que par insurrection, dans la chaleur des factions, au milieu des coups de poing, de chaises, de bâtons, qui tombaient comme grêle autour de la tribune. Mais de véritables républicains, des démocrates permanents, par principe et par instinct, c'étaient les Athéniens. Railleurs et malins, non seulement le peuple d'Athènes permettait de parler et d'écrire, mais on voit, par ce qui nous reste de son théâtre, qu'il n'avait pas de plus grand divertissement que de voir jouer sur la scène ses généraux, ses ministres, ses philosophes, ses comités. Et, ce qui est bien plus fort, de s'y voir jouer lui-même, lit Aristophane, qui faisait des comédies il y a 3000 ans, et tu seras étonné de l'étrange ressemblance d'Athènes et de la France démocrate. Tu y trouveras un père Duchesne comme à Paris, les bonnets et des séances absolument comme les nôtres. Tu y trouveras les principaux personnages du jour, en un mot, une antiquité de 3000 ans dont nous sommes contemporains.
Heureusement que Périclès, posthume, a eu Camille Desmoulins pour le défendre, parce qu'au même moment, on voyait quelqu'un comme l'abbé Grégoire, par exemple, qui dans son rapport à la Convention d'août 1793 disait ceci: « Les tyrans eurent toujours la politique de s'assurer les trompettes de la renommée. Tel fut Périclès, qui après avoir ravagé la Carmanie pour complaire à sa maîtresse, corrompit par son exemple Athènes, subjuguée par son astuce, et fit mentir les historiens, ça c'est nous, c'est vous, Vincent Azoulay, et fit mentir les historiens en sa faveur. » Vous ne mentez pas. Mais enfin, vous êtes en quelque sorte sollicité par l'abbé Grégoire. Comment est-ce que cette sévérité s'explique-t-elle? En dehors de la maîtresse, c'est-à-dire Aspasie, qui a toujours provoqué des commentaires mi-libertins, mi-moraux.
Oui, tout à fait. Une Aspasie qui est considérée comme la responsable du déclenchement de la guerre du Péloponnèse.
Périclès et les femmes n'avons pas pu traiter ça en longueur, mais
non, c'est vous une en émission parlez dans à votre part livre. Entière. Oui. Mais oui, effectivement, la Révolution française montre dans l'océan de discours qui nous sont parvenus une détestation de Périclès. Quand on parle de la démocratie athénienne, c'est à la limite pour encenser Solon, jamais Périclès, vu comme un fauteur de guerre, comme un tyran, parfois associé à Robespierre, Périclès chez les adversaires de Robespierre, Périclès comme tyran à l'image de Robespierre, c'est ce qu'on trouvera aussi chez l'abbé Grégoire ou chez Billaud-Varenne. On a véritablement une image détestable du stratège qui doit beaucoup, bien sûr, aux philosophes des Lumières et aux stéréotypes qu'ils ont repris de Plutarque. De Plutarque lui-même.
Il faut attendre le mi-temps du 19e siècle pour que la figure de Périclès redevienne positive, sous l'effet d'ailleurs des Britanniques, des Allemands. Les Allemands d'abord, et puis les Anglais aussi, le colonialisme.
Bien sûr, les Allemands, puisque l'expression même de siècle de Périclès est prise en bonne part, vient de Frédéric II, vers 1741, dans l'Anti-Machiavel. Et les Allemands ayant un rapport privilégié avec les Athéniens qui se développent au milieu du XVIIIe siècle et qu'ils vont abandonner au cours du XIXe siècle. Et au XIXe siècle, ce sont les Anglais, par George Grote, un historien libéral qui, dans sa retraite, écrit une monumentale histoire de la Grèce dans laquelle Périclès, là, a enfin le beau rôle. Et en France, Victor Duruy, ministre de l'instruction publique de Napoléon III, qui vont jouer un rôle décisif dans la conversion du regard qui amène vers le Périclès de salle de classe que nous connaissons, cette icône de la démocratie athénienne que nous rêverons encore, et peut-être à raison.
Avec une ambivalence qui dure, puisque d'un côté Hitler et son architecte Albert Speer se réfèrent à Périclès pour les grands travaux, et qu'en face, du côté de la Grande-Bretagne, qui se bat farouchement de Churchill. On voit que Lord Beaverbrook avait envoyé au Premier ministre, avant le fameux discours de celui-ci, nous nous battrons partout, avait envoyé cette dernière phrase de l'oraison funèbre de Périclès, n'ouvrez aucune négociation avec les Spartiates et ne faites point paraître que les épreuves présentes vous accablent. Car ceux qui, en face du malheur, montrent le moins d'affliction dans leurs sentiments et dans leur conduite le plus de résistance, ceux-là, qu'il s'agisse d'État ou d'individus, sont bien ceux qui l'emportent. La Grande-Bretagne, en effet, a gagné avec d'autres la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Vincent Azoulay. Nous avons fait fond, naturellement, sur votre livre que j'évoquais à plusieurs reprises, qui a ce beau sous-titre, Périclès, avec ce beau sous-titre, La démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme. Nous sommes là au cœur, je crois, de notre conversation. C'est un ouvrage qui est paru chez Armand Collin, dans une collection dirigée par notre cher Maurice Sartre, paru en 2010 et qui a eu, en 2011, le prix du livre d'histoire du Sénat. Beau couronnement. Claude Mossé, grande historienne de la génération qui vous a précédé, peut-être deux générations, a écrit également une belle biographie de Périclès, Périclès, l'inventeur de la démocratie, chez Payot en 2005. C'est une réédition. Et puis, on peut signaler aussi un livre intéressant dans la suite de notre réflexion sur Périclès après Périclès, ce livre de Donald Kagan, Périclès, la naissance de la démocratie, paru chez Talendier en 2008. Pourquoi ce livre est-il intéressant?
Il est intéressant parce que c'est d'abord un bon livre d'histoire, mais qui développe une vision assez, disons, idéalisée du stratège et notamment de l'impérialisme athénien.
Kagan, une famille intéressante, Kagan.
Oui, puisque il s'agit du fils de l'un des principaux conseillers de George Bush au moment de l'invasion de l'Irak en 2003.
Quelle est la thèse ?
La thèse, c'est que Périclès ne doit pas être comptable des dérives de l'impérialisme athénien et que Athènes, d'ailleurs, vis-à-vis de ses alliés, s'est comportée avec justice et justesse, ce qui, disons, pour le moins, prête à discussion.
Merci beaucoup, Vincent Azoulay, merci beaucoup. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver une bibliographie complète, vous le savez, sur notre site, plus complète, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter, podcaster cette émission, comme toutes celles que nous avons précédemment consacrées à l'Antiquité, qui est vraiment un magasin, comme on disait autrefois, un magasin de références toujours très stimulant. J'espère que nous l'avons prouvé à propos de Périclès. Samedi prochain, nous nous rapprochons dans le temps, puisque nous parlons de la Troisième République et des pamphlets fin de siècle. Vous verrez que ces écrits ont aussi des résonances aujourd'hui, ça ne vous surprendra pas. Je recevrai pour en parler Cédric Passard. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine au sujet suivant, l'histoire de la notion de patrimoine. Je me demande comment l'idée l'en est venue. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son d'Alia, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Anne Delaveau pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme chaque semaine, j'ai toujours plaisir à saluer ceux qui, du côté de la documentation et de la bibliothèque de Radio France, nous aident considérablement. Je passe le témoin, comme chaque samedi, à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.